Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer cette mission sur la première Renaissance. Cette émission n'est ni un cours d'histoire de l'art, ni un cours d'histoire. Nous allons reprendre avec Donatello. J'espère que vous avez visualisé le David extraordinaire de Matello, qui est pour moi une des plus belles sculptures de la Renaissance. Et c'est le premier nu antique, le premier nu de la Renaissance depuis l'Antiquité. Donc, Donatello, il importe son art dans toute l'Italie, en particulier à Padoue, en 1443. Il va réaliser un monument, une statue équestre, en une seule pièce. C'est une œuvre commandée par la République de Venise pour glorifier le condottiere Erasmo de Narni. Le condottiere, c'est un chef de mercenaires, et la statue est baptisée aussi statue de Guata Melata. Elle est réalisée en 1447-1453. Elle est située sur la Piazza del Santo à Padoue. C'est un socle impressionnant avec bas-relief. Le cheval est inspiré de la statue en bronze de Marc Aurèle qui est au musée à Rome. C'est une œuvre monumentale. Il va s'inspirer aussi des quatre chevaux en bronze du quadrice de Venise venant de l'hippodrome de Constantinople lors de la prise par les Vénitiens en 1204. Et Donatello va reprendre le pas du cheval. L'amble. Le boulet à l'avant, vous le verrez, permet l'appui technique du sabot. Donc il va maîtriser les proportions du cavalier, expression remarquable du visage et de tous les détails. Une œuvre très importante de Donatello que je voudrais évoquer, c'est Marie-Madeleine. Elle est 1457, c'est une œuvre en bois de 1,88 m. Elle est à Florence, au musée del Duomo. C'est une œuvre dramatique, réaliste, où on voit la souffrance du personnage qui est amaigri après un jeûne important. C'est la pécheresse qui va se repentir avec la bouche ouverte. Elle est vêtue d'une peau de bête. C'est une statue remarquable et j'espère que vous allez la regarder très bientôt. Le troisième personnage très important après Brunelleschi et Donatello, c'est Masaccio. Masaccio, c'est 1425-1428 et une œuvre extraordinaire, c'est une fresque située dans l'église Santa Maria de la Novella. C'est une œuvre qui parle de la Trinité. Alors, c'est une œuvre difficile, mais en parlant dans cette émission, vous allez découvrir un petit peu toute la composition, nouvelle composition de cette peinture de la Renaissance. Œuvre de la Trinité, c'est une œuvre, un décor à vocation funéraire avec une architecture très importante. Vous verrez de chaque côté un pilastre cannelé encastré dans la mure avec un chapiteau corinthien et deux colonnes à chapiteau ionique de chaque côté. Au-dessus, un entablement, deux médaillons, c'est très important parce que les médaillons, c'est la reprise de l'architecture de l'Antiquité, et une voûte en berceau à caissons qui va entraîner une grande profondeur. Et Vasari dira en 1568, dans son livre La vie des meilleurs peintres et sculpteurs, c'est une œuvre, une voûte en berceau, tracée en perspective, divisée en caissons, ornée de rosaces qui vont en diminuant, de sorte qu'on dirait que la voûte s'enfonce dans le mur. Sur le plan iconographique, la chapelle est sculpturale, à l'avant-centre, le squelette d'Adam, le premier plan, les donateurs ou commanditaires, le deuxième plan, la Vierge Marie à gauche et le Saint-Jean à droite, et au troisième plan, la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une œuvre verticale de la Trinité. On appelle cela aussi le tronc de grâce. Dieu le Père est un vieillard barbu, il y a la colombe et le Christ. Si nous revenons sur l'avant-centre, nous voyons le squelette d'Adam avec une phrase gravée, une sentence morale qu'on appelle un memento mori, qui est écrit en latin et je traduis « J'ai été ce que vous êtes et vous serez ce que je suis ». Le premier plan, la partie humaine, c'est le donateur et le commanditaire. Le troisième plan, c'est la partie religieuse avec Marie, la mère de Dieu, avec quelque chose qui est très important, le regard admoniteur. La Vierge nous regarde, son regard est tourné vers le spectateur. Et Saint Jean, apôtre de Jésus. Le quatrième plan, la partie divine, Dieu le Père, première personne de la Trinité, la toute-puissance. Le Fils, le Christ adulte, cheveux longs, barbu, il représente l'intelligence divine, la représentation de Dieu et au-dessus, l'Esprit de Dieu. sur le plan plastique et stylistique, alors je sais que c'est un petit peu difficile, mais quand vous regarderez cette œuvre, vous allez tout comprendre avec cette explication, la construction de la peinture et la sculpture florentine. Quelles sont les composantes essentielles de l'œuvre? Bien, vous voyez que c'est une composante triangulaire avec un effet de profondeur qui est extraordinaire, qui donne une composition pyramidale. Construction symétrique, et cette construction pyramidale donne le chemin spirituel. Architecture fortement marquée, des personnages qui sont puissants, présents par leur drapé, couleurs peu variées mais répétitives, le rouge et le bleu, et cela va créer un rythme. L'éclairage de face mettant en évidence la valeur de l'architecture. Nous avons donc cette profondeur de l'espace qui est remarquable avec cette perspective, la mise en œuvre, la perspective avec cette profondeur monumentale. Et Brunelleschi, c'est très important, invente cette perspective linéaire. La perspective, c'est l'art de représenter des espaces, des objets de deux dimensions en trois dimensions. Cette perspective, nous la retrouverons dans toutes les œuvres de la Renaissance. Elle est linéaire, avec la ligne d'horizon, ligne de fuite, le point de chute, avec les auréoles qui sont en perspective. Et aussi, c'est très important, une perspective aérienne, atmosphérique dans le tableau, ou perspective aérienne. Le jeu des couleurs va permettre la notion d'éloignement. Premier plan des contrastes, et en allant vers le fond, les contrastes sont beaucoup plus flous et les couleurs en dégradé. Perspective au niveau des ombres et perspective des auréoles. Mise en contexte de l'œuvre qui s'appuie sur les comparaisons, première œuvre qui est la plus marquante de la première Renaissance, mais aussi pour le renouveau de la peinture, c'est une rupture complète dans le principe de la représentation spatiale. Elle est réalisée à la fin de la vie de l'artiste. Les autres œuvres de Masaccio qui sont très importantes, c'était très belles. Il y a aussi la crucifixion polydeptique qui est dans l'église du Carmel à Pise, et je vous invite à la voir. La deuxième œuvre très importante, c'est la chapelle Branacci, 1424-1425. Cette chapelle Branacci, elle est à Florence, à l'église la Santa Maria de la Carmen. C'est dans le transept droit. C'est le grand chef-d'œuvre de Masaccio. C'est une famille florentine qui va acheter une chapelle familiale dans cette église et Masaccio va peindre les fresques de la vie de Saint-Pierre, notamment le tribut de Saint-Pierre avec cette perspective atmosphérique extraordinaire. Tous ces épisodes de la vie de Saint-Pierre sont représentés et Masaccio va travailler avec Masolino. Puis Lippi restaurera les œuvres manquantes. Une œuvre que j'aime beaucoup dans la chapelle de Branacci, c'est la résurrection du fils de Théophile, réalisée par Masaccio et terminée par Lippi. Dans ces fresques, Masolino, Masaccio et Alberti, ainsi que Brunelleschi, se sont représentés. Ces fresques sont merveilleuses, je vous conseille de les regarder. Les peintures sont extraordinaires et vraiment c'est une œuvre marquante de la Renaissance. Et vous avez dans ces œuvres tout pour comprendre la peinture et la sculpture de la Renaissance, et ainsi que son architecture. Je vous propose donc de regarder sous vos écrans cette magnifique œuvre de Masaccio, La Trinité, et je vous invite pour la prochaine fois de regarder avant l'émission le Fra Angelico, qui est un dominicain, l'Annonciation de Cortone, de Lippi, la Lippina, et surtout, je voudrais que vous regardiez avec beaucoup d'intérêt Piero della Francesca, avec deux œuvres très importantes, deux chefs-d'œuvre, la Flagellation du Christ et le diptyque des ducs d'Urbino. Nous en parlerons la prochaine fois.